sans agriculteur. Délicat d'en faire un art pour l'art purement conceptuel. Et dans le monde moderne, marqué par l'économie d'innovation et de la rationalisation très poussée des process de production, il devient difficile d'être agriculteur sans un appui sur la recherche agronomique ou sur des techniques qui viennent de la recherche agronomique. Donc on a une relation extrêmement dense entre l'agriculture et l'agronomie, mais quand on en fait l'histoire, on se rend compte que cette relation, elle n'est pas linéaire. Ça n'est pas ni la belle histoire d'une rencontre, ni l'histoire d'une agronomie qui aurait été hautaine, dirigiste et qui aurait appris la démocratie sur le tard. Hein. On a des va-et-vient entre des manières d'être, des manières d'échanger, de se comprendre ou de ne pas se comprendre du tout entre les agronomes et les agriculteurs. Et faire cette histoire-là, ça peut nous aider à comprendre dans ce qui est les urgences du présent sur la crise de la biodiversité et du climat, comment on peut réembarquer ensemble le monde agricole, le monde de la recherche agronomique, pour essayer de trouver des transitions viables et négocier entre les rationalités produites par la science et les projets des agriculteurs, individuels ou collectifs, pour avoir quelque chose qui fonctionne et qui soit réellement à la hauteur des enjeux du présent. Ce qui est intéressant encore pour un historien dans cette histoire, à la fois depuis un passé lointain jusqu'au présent et ses enjeux, c'est de se rendre compte que finalement, dans la longue durée, la relation entre les agronomes et les agriculteurs, elle est asymétrique, mais de deux manières opposées. Je m'explique. On va dire que dans l'ordre des savoirs, ça fait maintenant plusieurs générations de chercheurs que l'agronomie a construit des savoirs savants, extrêmement complexes et élaborés, mathématisés, modélisés, etc., qui ne sont pas accessibles aux praticiens d'agriculture dans son quotidien. Donc il y a une asymétrie de connaissances qui s'est produite dans l'histoire entre la science agronomique, d'une part, et les savoirs de la pratique, de l'autre. Attention, il faut bien regarder aussi, j'y reviendrai, que les agriculteurs ont énormément progressé dans la maîtrise, y compris des fondamentaux scientifiques de la pratique, mais évidemment pas au niveau de pratique de laboratoire. Donc, il y a cette asymétrie-là qui est très importante, mais il convient toujours de rappeler qu'il y a une asymétrie dans l'autre sens, entre le fait que l'agronome vient proposer un savoir qui se veut générique, qui n'est pas censé être adapté à tel canton ou à telle exploitation, et que c'est au contraire tel agriculteur, dans telle configuration de système de production, qui va recevoir ou ne pas recevoir le conseil de l'agronome. C'est-à-dire que l'histoire de la relation science-société sur la thématique agricole, c'est une histoire de propositions faites par l'agronomie qui ont été prises ou non prises par les agriculteurs. Et j'y reviendrai, il y a eu un moment dans l'histoire où on s'est dit, mais comment se fait-il que les agriculteurs ne prennent pas les bonnes solutions qu'on leur apporte? Hypothèse numéro 1, ils sont stupides, c'est ce qu'on a longtemps essayé de faire croire. Hypothèse numéro 2, ils ont de bonnes raisons de ne pas prendre ces innovations qui ne correspondent pas soit à ce qu'ils seraient capables d'implémenter dans leur pratique, soit qui ne correspondent pas à leur projet. Puisque, contrairement à ce que disait Marx, les agriculteurs ne sont pas des pommes de terre dans un sac, ce sont des acteurs avec des projets, avec une culture, avec une place dans la société, qui ont leur propre visée. Et donc, la rationalité scientifique ne suffit pas à dire ce que le monde agricole veut, peut et doit faire. Voilà pour ces généralités. Maintenant, un autre élément que j'espère pouvoir vous dire sans vous vexer, c'est que dans le champ des sciences, l'agronomie est une discipline qui se distingue par, comment dire, son inconstance, ses changements de pied épistémologiques, sa faiblesse épistémologique. L'agronomie est une science très proche des applications, qui n'a cessé de recevoir des feedbacks des applications, et qui a à la fois une force et une faiblesse de recevoir ces feedbacks et de se modifier sans cesse, mais du coup, de ne pas apparaître comme une forteresse positiviste, comme d'autres disciplines scientifiques. Et donc, l'agronome, il peut essayer d'être tout puissant dans son dialogue avec l'agriculteur, ça ne marche pas très bien, parce qu'en arrière-plan, le monde de la biologie fondamentale regarde de haut l'agronome. Et donc, l'agronome, il est toujours partagé entre se revendiquer de la forteresse scientifique ou se revendiquer de l'utilité sociale auprès du monde agricole. Et on a cette ambivalence du rôle de l'agronome qui explique pourquoi le dialogue agronome agriculteur dans l'histoire, il n'est pas tout noir, tout blanc, il n'est pas évoluant de la compréhension à la démocratie, il est fluctuant selon les contextes agricoles et selon les contextes scientifiques. Alors, une fois qu'on a posé ces généralités-là, je vais simplement rebalayer les quelques temps forts de cette histoire récente pour qu'on comprenne d'où on vient sur cette relation entre agronomie et agriculture. Ça sera nécessairement schématique, mais on peut l'approfondir dans la discussion parce que vous savez bien, aujourd'hui, dans le débat contemporain, d'abord, c'est un peu l'heure de gloire des agronomes, hein, on les invite dans les festivals, sur les plateaux, on les fait poser, comment on va résoudre la crise mondiale, est-ce que l'agronomie nous conseille de nous cacher avec des paquets de pâtes et de sucre. Voilà, on demande la parole de l'agronome, ça n'a pas toujours été le cas. Bon, et donc, dans ces enjeux contemporains, on a tendance à mobiliser l'histoire en disant finalement, où est-ce qu'on a pris la mauvaise bifurcation? Où est-ce que le pilotage du vivant a commencé à faire des bêtises? Est-ce qu'il faut revenir aux années 50, au 19e siècle, au Moyen-Âge, avant le néolithique? Qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise qu'on pourrait corriger en faisant un grand saut en arrière? Alors, je vous le dis tout de suite, sur le coup, l'historien et l'agronome sont d'accord, il n'y a pas de marche arrière. C'est-à-dire que quand on a commencé à modifier les écosystèmes et les espèces végétales et animales, on ne peut pas retrouver le vivant d'une époque antérieure, on ne peut pas retrouver la biodiversité antérieure, etc. Et donc on doit faire avec l'héritage d'une terre fortement anthropisée. Hein. On va discuter ici du concept de l'anthropocène, mais on a effectivement un impact, une empreinte très très forte de la modification du vivant par des usages notamment agricoles, et donc il faut faire avec le présent et non pas avec des recettes du passé. Le passé n'a pas de leçon à nous donner de ce point de vue-là. Pour moi, l'historien peut servir à ça. J'ai pas de livre mystérieux avec des recettes d'une agriculture durable, soft, qui n'irait pas continuer à endommager le climat et la biodiversité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc en balayant cette histoire générale? D'abord, évidemment, on a une phase très longue dans laquelle l'agriculture est une pratique diversifiée suivant les aires de civilisation, mais aussi suivant les aires climatiques, hein, en fonction des opportunités des espèces végétales et animales qui l'ont plus domestiquées. Et donc on a des histoires séparées de l'agriculture, suivant les grandes aires de civilisation et les grandes aires géographiques. Mais on a très tôt des échanges de commodités, hein, pensez ne serait-ce que au tout début des plantations sucrières au XVIe siècle, au trafic des produits stupéfiants light ou plus puissants, du tabac au café au cacao en passant par l'opium, etc. Donc on a, dès l'Ancien Régime, des échanges importants de production végétale notamment, mais même de production animale, qui font un début de mondialisation agricole, et donc d'échanges de savoir et de compilation de savoir de tiens, comment se fait-il que le blé ne pousse pas dans tel pays, que les vaches meurent dans tel climat, que tel insecte soit nuisible, etc., à tel type d'élevage. Bref, on a une capitalisation lente des savoirs sur la conduite du vivant entre la fin du Moyen-Âge et le XVIIIe siècle. Et puis, on voit émerger une volonté de rationaliser ces savoirs, de les mettre dans des livres, dans des traités, dans des manuels quasiment. Alors, vous connaissez tous au moins deux noms, Olivier de Serres, hein, qui a publié vers 1600 un gigantesque théâtre d'agriculture qui s'appelle, en sous-titre, « Ménage des champs », le bon ménage, hein, « ménage » est écrit, ça a donné « management », hein, c'est le terme sur comment on fait pour bien gérer une exploitation. Attention, Olivier de Serres n'est pas un scientifique. Il parle d'expérience, mais l'expérience dont il parle n'est pas une expérience contrôlée, avec un système de mesure qui cherche à produire des preuves. On est là dans la compilation de savoirs de la pratique. On est dans des savoirs de type vernaculaire qui sont peu à peu, qui montent en qualité, qui sont un peu formalisés et qui sont diffusés par l'imprimerie. L'agronomie apparaît comme discours scientifique sur ce substrat de savoir vernaculaire théorisé par les élites sociales. Là, c'est un point qui est quand même très important. Quand l'agronomie commence à devenir un peu scientifique au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, c'est une agronomie de grands propriétaires. Ce sont des grands propriétaires qui vont expérimenter la sélection de nouvelles plantes, fourragères, ça va être la recherche du bœuf gras, avec la recherche du mouton qui fait plus de laine. Donc il y a de l'expérimentation, qui à nos yeux paraît plutôt du bidouillage, au XVIIIe siècle, hein, qui est du tâtonnement pour trouver des rationalités qui permettent, mais c'est l'esprit nouveau du XVIIIe siècle, qui permettent d'imaginer une intensification de la production. Supprimer la jachère, produire plus de lait, plus de viande, plus de laine, plus de grains. Donc l'idée de la croissance, hein, elle apparaît véritablement au XVIIIe siècle dans la réflexion du monde de la grande propriété, qui d'ailleurs en Europe est pour beaucoup encore le monde de la seigneurie foncière. Hein. On est du côté de l'aristocratie, encore. Donc, l'agronomie, elle naît dans ce monde-là, ce qui veut dire, et ça c'est très important, que l'agronomie, comme discours sur l'amélioration des pratiques, elle naît dans un monde qui n'a pas tellement de problèmes de fin de mois, et dans lequel c'est pas très grave si on rate une expérimentation. Par exemple, on va importer des beaux moutons d'Espagne, des mérinos, et on va chercher à mettre en avant cet élevage amélioré, mais on le fait presque plus pour le prestige que pour le profit. Hein. Quand on regarde les comptes de ces grands propriétaires qui se piquent d'agronomie, en général, ils sont déficitaires dans les grandes largeurs. Et donc, ça explique pourquoi, pendant très longtemps, les agriculteurs de souche plutôt paysanne pour simplifier, se sont méfiés du discours des agronomes qui prenaient des risques que eux ne pouvaient pas se permettre. Ça a duré longtemps, cette incompréhension-là, sur faut-il faire confiance aux agronomes ? Sont-ils des gens dangereux dans les conseils qu'ils donnent ? Bien. Donc, la phase où l'agronomie s'invente, elle s'invente pour les élites. L'idée que l'agronomie puisse devenir une science générique, c'est le 19e siècle. Et c'est le triomphe de la chimie, et notamment de la biochimie, qui va, pour la première fois, permettre à l'agronome d'avoir raison contre le producteur à partir d'analyses, notamment des sols. Donc c'est la révolution de la chimie du 19e siècle, Lilly, pour donner un nom, qui permet à l'agronomie de se scientifiser et d'avoir le dernier mot dans le débat sur ce qui fait la fertilité d'un sol. Ensuite, la rencontre entre l'agronome et l'agriculteur, il faut être clair, elle se fait sur des motifs politiques. En France, c'est l'État qui va coordonner la structuration des écoles d'agronomie, de la recherche agronomique, qui va les mettre sous la dépendance de la physique et de la chimie et décider que, à titre de l'héritage des Lumières, on va diffuser le savoir dans les campagnes pour faire de la France une grande puissance agricole. Donc l'agronomie est une science directement politique, notamment à partir de la Troisième République, qui va diffuser le progrès agronomique dans tout le territoire en nommant des professeurs départementaux d'agriculture, hein, c'est les ancêtres des DSA, hein, des directions des services agricoles de chaque département, et on va apporter les Lumières dans les campagnes. Et on le fait avec bienveillance, on le fait avec pédagogie, on le fait aussi avec, pour le coup, une relation asymétrique. Hein. L'agronome sait, l'agriculteur est un paysan arriéré qui va comprendre le sens du progrès, de l'hygiène, de l'amélioration de ses troupeaux et de ses cultures. Et donc, on est là dans une phase qui est un volontarisme d'État descendant, une diffusion vers le bas du discours de l'agronome. Cette phase-là dure jusqu'au milieu du XXe siècle, où elle est remplacée par quelque chose de nouveau, c'est l'intensification de la scientificité de l'agronomie, avec les découvertes de la génétique, les nouvelles méthodologies à la fois d'amélioration des plantes et de logique phytosanitaire, et c'est la création de l'INRA en 1946 qui va faire de l'agronomie française, non plus simplement, allez, on va dire que les agronomes faisaient largement de la pharmacie de proximité jusque-là. Hein. Donc, avec la création de l'INRA, avec la mise en laboratoire de la science agronomique, on va assister à une montée spectaculaire du savoir sur les systèmes de production, sur les productions les unes après les autres, coordonnées avec... Alors les Français ne sont pas tout seuls, ils sont même plutôt en retard en zootechnie par rapport aux anglo-saxons. Et puis, ils vont trouver des connexions avec le modèle américain sur les productions végétales intensives. Mais donc, on a là une phase dans laquelle l'agronome va se trouver pris de schizophrénie entre rester avec ses bottes sur le terrain pour être capable toujours de conseiller, mais devenir aussi un homme de laboratoire qui est capable de produire une science de haut niveau, de plus en plus proche de la biologie fondamentale. Et là, l'agronomie, elle va se poser le problème de sa définition. La fameuse opposition entre le sens large et le sens étroit de l'agronomie. L'agronome est-il celui qui sait simplement comment on va rationaliser la conduite des cultures végétales, ou est-il le porteur d'une connaissance scientifique générale sur la conduite du vivant? Et donc, on a des oppositions au sein de la discipline étroite agronomie, mais aussi au sein de la recherche agronomique sur où est le cœur du métier. Est-ce qu'il est dans le laboratoire, dans la conceptualisation, dans l'expérimentation? Est-ce qu'il est dans l'interface avec la société? Et de fait, la relation tend à se distendre entre le monde agricole et le monde des agronomes dans les années 50-60, parce qu'on va inventer des intermédiaires, des conseillers, hein, par exemple, qui vont, ou les instituts techniques, qui vont se charger de vulgariser la science. Sauf que vulgariser, ça ne marche pas bien. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de simplifier pour que ça fonctionne. Il y a aussi le problématique de la science qui se veut appliquée est-elle réellement applicable? Et donc, il manque des sciences humaines, de la sociologie, de l'économie, voire de l'anthropologie, pour comprendre comment les choses se jouent. Je vais vite parce que, oui, il est temps de fermer. Tout ce monde-là entre en crise dans les années 70. On a une crise économique. On a un désenchantement vis-à-vis du productivisme, y compris chez les soi-disant vainqueurs de la course à la modernisation, qui fait que dans le monde agricole, on a un certain spleen de se dire, ah voilà, on a suivi tous les bons conseils du banquier, du vendeur de matériel agricole et puis de l'agronome, et on est quand même endetté jusqu'au cou et on travaille de plus en plus, et on est de plus en plus seul dans nos exploitations. Donc il y a cette crise du métier, mais il y a aussi parallèlement une crise de la science, parce qu'on se pose des questions sur les aménités négatives du productivisme. C'est les débuts de la réflexion sur la qualité de l'eau, hein, c'est Panénin et son rapport sur l'eau en 1980, c'est la problématique des produits phytosanitaires, bref, la découverte de la question environnementale provoque des interrogations critiques dans le monde même de la recherche agronomique. Et donc, cette crise, elle va aboutir au fait que, à partir des années 70, on ne peut plus parler d'un corpus agronomique. On a des manières d'être agronome. C'est dans cette phase-là qu'émerge l'agronomie système. Tous les agronomes ne sont pas d'accord avec cette définition-là. Donc, on va avoir des stratégies scientifiques divergentes qui sont fondées à la fois sur des manières de produire de la science, proches ou éloignées des acteurs, et sur des nouvelles alliances. L'agronome se pose la question, où est-ce qu'il est efficace, où est-ce qu'il est utile? Je dirais que dans le monde du laboratoire, il est en train de se faire doubler par la biologie moléculaire. En tout cas, dans les budgets d'INRA, c'est évident. L'agronome, il ne peut plus recruter correctement dans les labos d'INRA parce que la biologie moléculaire prend l'essentiel, en tout cas dans les productions végétales. Donc, comment on réinvente le métier? Eh bien, on va le réinventer non plus sur des paquets techniques simples qui sont, bah, vous prenez telle variété, vous mettez tel produit et vous avez telle récolte avec tel rendement derrière, mais essayez d'aller vers la précision, vers l'économie, l'autonomie, hein, c'est des mots-clés qui apparaissent dans les années 70, et on va se poser la question d'un agronome qui va revenir vers la spécificité des productions, des espaces et des projets des agriculteurs. Et là, il faut réinventer un lien différent. Il faut construire un dialogue. Ça tombe bien, les lycées agricoles, les formations post-bac se sont multipliées, les agriculteurs des années 80, ils sont très différents, en tout cas les jeunes qui arrivent par la formation qu'ils ont reçue. Et donc, les conditions du dialogue sont différentes. Après cela, la grande difficulté, c'est que l'agronome, il reste écartelé entre une science qui s'internationalise, qui se fondamentalise et qui exige de lui de publier dans la langue de la science, de plus en plus normée, et qu'en face de lui, il a une agriculture de plus en plus diverse, qui pose des questions complètement différentes, et il y a une difficulté à savoir si on peut répondre à toutes les demandes. Par exemple, à un moment où il y a eu un moment où l'agronomie française se demandait est-ce que le bio, ça vaut la peine de travailler dessus. La réponse dans les années 70, c'était non. Dans les années 80, on se dit peut-être un peu. Puis dans les années 90, on s'est dit on a pris du retard pour essayer de produire de la science avec et pour. Et la problématique aujourd'hui sur l'agroécologie, elle a du même type. Est-ce qu'il faut tendre la main aux écologues ou est-ce qu'il faut inventer une écologie sans eux? Comment on va faire de science pour répondre à cette demande-là? Donc, pour nous résumer, l'histoire des relations entre agronomie et monde agricole, c'est l'histoire de deux mondes qui sont intimement liés par des sujets très forts, mais qui ne cessent de se révolutionner chacun, et donc de modifier leurs relations. Et donc, la relation d'aujourd'hui et de demain du monde de la recherche agronomique et du monde de l'agriculture, elle n'est pas écrite, son succès n'est pas garanti, parce que justement il y a des tensions, des incompréhensions et peut-être des objectifs divergents entre ceux de la recherche et ceux du monde agricole. Voilà, je reste là pour ce propos liminaire. Merci. Merci.
Merci beaucoup Pierre Candu pour cette introduction historique qui met bien à notre place. Je vous invite à chercher les travaux de notre invité aussi si vous voulez en savoir plus et approfondir un petit peu ces questions-là. On va passer peut-être à des exemples un petit peu concrets et actuels, surtout d'exemples de recherche participative voilà, en lien aussi avec ce qui se fait ici dans ce bâtiment lui-même.
Alors du coup, avec Jean-François, on va vous parler d'un projet qui s'appelle Territoire d'agroécologie. Territoire d'agroécologie, l'ambition de ce projet, c'était d'étudier et accompagner la transition vers des systèmes agricoles et alimentaires plus durables. Et on avait l'ambition d'avoir une vision à la fois très globale de cette transition à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire en incluant à la fois l'évolution des pratiques de consommation des habitants, la réorganisation des systèmes alimentaires, l'évolution des pratiques agricoles, donc une approche très globale qui, on peut le dire, a été assez fédératrice au démarrage, c'est-à-dire qu'elle a intéressé un grand nombre de personnes. Mais l'expérience, et donc c'était un projet, excusez-moi, je n'ai pas présenté le contexte, c'était un projet de recherche participative coordonné par l'ISARA en lien avec trois territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre idée, ce n'était pas de dire voilà qu'est-ce que c'est qu'un label territoire d'agroécologie, et puis on va voir où en sont les territoires par rapport à ce label. On était sur une approche qu'on peut dire non normative d'accompagnement des processus en cours de transition. Donc au démarrage, ça intéresse tout le monde et on repère un certain nombre de pistes d'action qui peuvent être faites. Mais au moment où on est rentré dans finalement comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on met en œuvre un véritable projet de recherche participative, on s'est rendu compte d'une véritable nécessité de resserrer significativement l'objet de recherche. Et en particulier, du coup, on s'est un peu heurté à finalement une conviction qu'on avait de se dire comment est-ce qu'on fait de la pluridisciplinarité. Et parce qu'en fait, les chercheurs ont aussi leur champ d'expertise et leur besoin d'avancer dans leur discipline, mais aussi resserrer les objets opérationnels. C'est-à-dire que les agriculteurs, par exemple, bien qu'ils puissent dire que oui, sur leur territoire, c'est très intéressant et ça serait super utile de réorganiser les filières, etc., etc., s'il s'agit, eux, de rentrer dans une démarche d'expérimenter quelque chose, leur centre d'intérêt va se resserrer significativement, par exemple autour de la fertilité des sols, et ça a été un des sujets qu'on a traité. Et donc, du coup, d'un projet très global, centré sur, finalement, transition des systèmes agricoles et alimentaires, on a fait l'expérience d'un besoin de resserrer les objets de travail, les objets de recherche et aussi d'action. Donc l'un autour de la fertilité des sols, d'autres autour de la réorganisation des filières, mais d'autres sujets aussi sur la gouvernance du territoire pour favoriser les dynamiques de transition. Donc différentes approches dont se sont saisis à la fois différents acteurs sur les territoires qui avaient des besoins. Donc par exemple, le parc du Pila avait besoin de choses sur la gouvernance, un groupe d'agriculteurs était en demande de choses sur la fertilité des sols, etc. Donc demande des acteurs et faire se rencontrer demande des acteurs et domaine d'expertise des chercheurs qui étaient en présence. Et on va vous l'illustrer du coup sur l'objet d'aujourd'hui, plus significativement sur l'expérimentation qui a été mise en place autour de la fertilité des sols. Okay. À toi.
Oui, donc en fait, on a été dans le cadre de ce projet-là, suite à des travaux effectivement d'étudiants sur un territoire de l'Isère. Il y a un ensemble, pas mal d'agriculteurs qui sont revenus vers nous en disant voilà, on voudrait travailler sur la question de la fertilité des sols. Et alors comment on peut se saisir d'une question assez complexe comme ça, non uniquement d'un point de vue chimique, effectivement. Faire progresser l'ensemble des agriculteurs d'un territoire qui peuvent être confrontés à des problématiques totalement différentes selon leur localisation dans le territoire. Comment essayer de gagner un petit peu en généricité avec travailler avec eux collectivement pour améliorer, entre guillemets, on va dire, leur gestion durable des sols. Donc ils sont venus nous chercher pour travailler là-dessus, et nous on a à l'ISARA, on a plutôt une longue tradition de travailler, on fait la recherche située, c'est-à-dire chez les agricultrices, chez les agriculteurs. On a toujours fait le choix de ne pas avoir de station expérimentale et de souvent s'écarter, alors, pour certains projets de recherche en tout cas, d'expérimentation dite analytique, où on compare toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que là, on s'inscrit dans une démarche plutôt systémique et on essaye justement de valoriser des savoirs d'agricultrices, d'agriculteurs dans leur contexte et de les mobiliser pour justement essayer d'engager des expérimentations dites systèmes au long cours. Alors, une expérimentation système, c'est-à-dire qu'on compare, il y a plein de choses qui varient, il n'y a pas vraiment de témoins, mais on se fixe des objectifs et c'est l'atteinte à ces objectifs que l'on va essayer d'évaluer. Voilà. Et donc on essaye d'intégrer nos savoirs avec ceux des praticiennes, ceux des praticiens, essayer d'hybrider en fait un petit peu tout ça pour avoir une sorte de fertilisation croisée entre nos savoirs. Et il n'y a pas de sachant, et, enfin, il n'y a pas de position de connaissance dominante, on va dire, dans un échange, dans une construction comme ça. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place au travers de ce projet. Et donc on a mobilisé au départ une vingtaine d'agriculteurs dans ce projet, qui, sur la base du volontariat, pour réfléchir aux grandes problématiques de fertilité des sols qu'ils rencontraient sur un petit territoire, qu'on appelle les boucles du Rhône en Dauphiné. Et il y a des systèmes de production différents, des conditions pédoclimatiques différentes, et donc on a essayé de construire différents systèmes qui répondaient à leurs problématiques. Donc on a mis ça en place en 2015, je crois, ouais. Je perds la mémoire, ouais, je crois que c'est ça. En 2015, on a commencé à mettre ça en place avec toute une démarche de co-conception de systèmes innovants qui avaient pour vocation d'améliorer la fertilité des sols, tout aussi améliorer la gestion de la fertilité des sols, mais aussi qui répondaient ces systèmes aux préoccupations des agriculteurs en termes de productivité, de temps de travail, d'économie, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs objectifs derrière, mais le principal quand même sur lesquels on a construit ces systèmes, c'était bien la gestion de la fertilité des sols. Et on a mis en place du coup des ateliers participatifs avec des agriculteurs pour bien comprendre leurs problématiques locales, et ensuite pour voir selon leurs problématiques, leurs connaissances, les connaissances qu'ils ont de leur système et les nôtres aussi, pour mettre en place ce qu'on appelle un système innovant, c'est-à-dire un ensemble de pratiques sur plusieurs années qui permettrait a priori d'améliorer la gestion de la fertilité des sols. Et quand je dis a priori, c'est-à-dire que nous, ensuite, notre rôle de chercheur et d'agronome va être d'aller sur le terrain, de faire des mesures, des relevés, de capitaliser en fait des données sur plusieurs années pour voir dans quelle direction on va et si effectivement les innovations qu'on avait co-conçues ensemble vont dans le bon sens. Et puis après, il y a plein de méthodes d'animation, on pourra peut-être aussi poser ces questions-là, parce que ça pose beaucoup de questions sur l'adoption de ces pratiques, de ces systèmes par les praticiens, comment on les évalue avec eux, comment ils peuvent se saisir des innovations, les transformer eux-mêmes dans leur ferme, etc. Voilà, donc ça nous pose toutes ces questions-là. Et donc c'est un petit peu l'objet du film que tu veux montrer, Perrine, je crois, me semble-t-il.
Peut-être, oui, mais je ne voulais pas...
Oui.
Peut-être, ça serait intéressant que tu nous donnes un exemple de système que vous avez...
Oui, c'est vrai. Par exemple, un système assez intéressant, qui très contraint, en fait, par des cahiers des charges et une contrainte économique assez forte, qui sont des systèmes de production de semences, où ils ont un cahier des charges qui leur impose, en gros, en fait, toutes leurs pratiques qu'ils doivent faire. Et ce sont souvent des systèmes très intensifs. Et donc, dans l'objectif de transition agroécologique, on se posait la question, effectivement, de se baser beaucoup plus sur des interactions biologiques pour diminuer les intrants et améliorer la durabilité, on va dire, simple, globale de ces systèmes-là. Et donc, ce système en production de semences, d'ailleurs, je crois que c'est l'agriculteur qui va s'exprimer, qui est aperçu tout à l'heure, monsieur Moulet, effectivement, sont des systèmes très contraints avec une forte utilisation d'intrants, on va dire, en général. Et on a réussi, par les ateliers de co-conception, à mettre en place certaines innovations, notamment des associations de culture en production de semences, qui se fait très très peu, en fait, et qui donne de bons résultats, notamment en termes de gestion de la fertilité des sols et aussi de réduction d'intrants, notamment d'engrais. Donc il y a des choses assez originales qui ont été mises en œuvre sur ce système de production par exemple. Voilà. Et on a 4 grands essais qui sont menés donc en Isère là, depuis 2015 chez les agricultrices et les agriculteurs et qui correspondent, pour faire simple on va dire, aux quatre grandes orientations technico-économiques des exploitations, polyculture-élevage, céréaliers, semenciers, etc. sur différents types de sols dans cette région. Voilà. Oui, j'oublie bien. Certainement plein de choses, mais après il faudra me poser des questions, etc. Oui. C'est pas très structuré, mais après je mets place au dialogue.
Donc là, il s'agit d'un retour d'agriculteurs après...
Après qu'ils nous ont fumé 2019.
Voilà. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Donc. Voilà.
Qu'est-ce qu'ils en disent ?
Christian Collet, donc je suis installé depuis 1986 sur une exploitation familiale. Je suis donc essentiellement producteur de maïs semence et d'autres cultures de semences, blé et colza. Je suis dans le projet de Terrae depuis le départ. Disons qu'en tant que producteur de maïs semences, depuis une vingtaine d'années, on avait l'obligation d'implanter des cipans pour piéger les reliquats d'azote après culture. Donc on l'a fait par obligation, ça au départ. Et puis on s'est vite rendu compte qu'on avait des bénéfices sur la qualité du sol, puisqu'on a des terrains très légers, filtrants. On s'est rendu compte qu'ils avaient une meilleure tenue. Et petit à petit, on a été amené à faire des essais pour mettre des légumineuses de façon à capter de l'azote pour faire bénéficier cet azote à la culture suivante. On s'était rendu compte qu'on avait une amélioration de la qualité du sol. Et puis on a vu aussi revenir des vers de terre, puisqu'on a des parcelles qui sont couvertes quasiment toute l'année. Avec Terrae, ça nous permet d'aller plus loin, donc de quantifier tout ce que nous apportent nos couverts, et puis d'évoluer aussi, de rechercher les espèces les mieux adaptées à notre production. Donc dans notre essai, on a implanté donc, du Railroad, de la Vesse, et puis du Trèfle Incarnat, ce qui nous a permis de capter plus d'azote et puis de pouvoir tout doucement faire des économies sur les fumures azotées.
Je suis Christophe Bonner-Giroux, je suis exploitant depuis le 1er janvier 1995, suite à la reprise de l'exploitation de mon père. Terrae, donc c'est plus, on va dire, tout ce qui est conduite de culture, entre guillemets, tout ce qui est mis sous couvert végétaux. Et j'ai toujours eu un peu du mal à aller vers ces techniques-là. Et à mon point personnel, je me suis dit que ça pouvait me permettre d'avoir un déclic, entre guillemets, en sachant que dans les types de sols où je suis, les conditions climatiques sont des choses qui peuvent donner un succès ou non à une conduite de culture de ce type-là. Alors là, sur la parcelle en question, justement, on est sur un terrain qui est très séchant. On a à peu près 25-30 cm de sol à proprement dit, et dessous, on est quasiment tout de suite dans du gravier tout venant. Ce qui fait qu'on est sur un terrain avec des réserves utiles en eau qui sont très faibles. Et le but qu'on avait évoqué au début avec Terrae, c'était d'arriver à créer en fait du paillage, du couvert végétal en surface pour essayer de limiter au maximum cette évaporation d'eau. Les couverts qu'on a fait l'année dernière, je me suis dit ouais, finalement c'est pas si mal que ça, ça peut marcher et compagnie. Et puis une année comme cette année, ça a été froid, c'est resté quand même très sec jusqu'à fin octobre. Donc ça n'a pas été des conditions qui ont fait que ça a été poussant pour permettre de faire développer le couvert. Ben, au final, on est très tributaire du côté climatique dans ce type de sol, quoi. S'il n'y a pas de fraîcheur et qu'on n'arrive pas à trouver de fraîcheur pour semer un couvert assez tôt en été, on a beaucoup moins de chances d'y arriver. C'est pas pour autant que ça me décourage, hein, au contraire. La grande question, c'est de savoir ce qu'on va faire comme couvert dans ce type de sol l'année prochaine, avant à ce genre, pour arriver à créer une biomasse suffisante, suffisamment développée pour pouvoir la coucher avec un rouleau faqueur, pour éviter l'utilisation d'un glyphosate avant semis, parce que le but, c'est quand même, ça serait aussi d'essayer d'éviter d'en utiliser.
Je souris parce que je ne les avais jamais entendus, ces témoignages. En fait.
Du coup,
c'est
ça te surprend?
Non, ça ne me surprend pas du tout. C'est marrant ce retour. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ils avaient énormément de connaissances et il y avait aussi plein de choses qu'ils n'osaient jamais tester. Parce que c'est une prise de risque, vous en avez parlé dans votre introduction, ils sont gentils ces agronomes, mais c'est moi qui prends les risques, c'est pas eux quoi. Et qui me dit que ça va marcher effectivement. Et le fait de travailler en collectif, d'avoir différents regards sur le même objet, entre pairs, et c'est ce qu'ils étaient aussi entre agricultrices, entre agriculteurs, effectivement, il y a des idées qui ont germé dans ces ateliers de co-conception et qui étaient vraiment assez intéressantes. Alors là, il y a des agriculteurs conventionnels, mais il y avait des bio aussi qui étaient dans les ateliers de co-conception et leur donnaient un autre regard, un autre point de vue. Ils disaient, mais pourquoi vous faites comme ça? Si vous intéressez votre rotation, vous commencez par là, etc. Donc il y a quelques innovations qu'on a testées, qui sont nées comme ça, mais il faut bien voir en fait que nous, on n'est pas arrivé en tant que porteur de vérité sur ce qu'il fallait faire et sur ce qu'il fallait tester en fait. Après, bien sûr, ils nous posent des questions et on apporte les connaissances que l'on a sur tel ou tel sujet, mais ils restent quand même souvent bien plus experts que nous-mêmes sur la maîtrise technique de leur système. Et donc ça, c'est ce qui transparaît en fait un petit peu aussi dans le discours du premier agriculteur, de Christian Vallée, qui avait déjà des pratiques intéressantes, mais avec lesquelles on a pu aller plus loin. Et pareil chez le deuxième agriculteur, chez Christophe, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu aussi quelques apprentissages en cours de route, parce qu'on teste des choses, ça marche, ça marche pas, ils peuvent prendre plus de risques, mais du coup on voit aussi que petit à petit, il y a une transformation de leurs pratiques à une plus large échelle dans leur exploitation. Christophe Bonner ne faisait pas beaucoup de couverts végétaux, était plutôt frileux sur l'utilisation de légumineuses, parce qu'il trouvait ça cher par exemple, et puis on a fait ça 2 ans suite, et aujourd'hui effectivement il en met tant qu'il peut, quand les conditions climatiques le permettent, parce qu'il est assez obsédé par ça sur des sols assez superficiels et séchants, parce qu'il s'aperçoit que derrière, il a des bons effets précédents, il a beaucoup d'azote, il permet de réduire les intrants, etc. Et en fait, on voit une transformation, tant soit peu, en tout cas, des pratiques chez les agriculteurs qui participent à ces démarches collectives. Et donc ça, c'est intéressant aussi en termes d'apprentissage. Et ce pourquoi aussi ils sont vraiment venus nous chercher. Les agriculteurs, ils expérimentent toujours chez eux. Ils essayent toujours plein de nouvelles choses, mais le problème, en fait, c'est qu'ils ne capitalisent pas, en fait, sur le long terme, les résultats qu'ils ont, et ils ont des fois un petit peu de mal à savoir pourquoi ça ne marche pas, pourquoi là, j'ai subi un échec, etc. Ça, c'est une première chose, d'arriver à mesurer les bénéfices des systèmes assez complexes que l'on met en œuvre. Donc ils avaient aussi besoin de ça, de personnes qui s'occupent effectivement, bon c'est le métier, de mesurer, en fait, on va dire, de capitaliser en fait un ensemble de données. Et nous aussi, ça nous intéresse, nous aussi, d'une part, pour essayer de publier, on pourra revenir sur cette question, parce qu'essayer de publier sur des démarches scientifiques comme ça, vu l'académisme, vous l'avez rappelé, c'est ultra compliqué, je n'y suis pas encore arrivé d'ailleurs, sur cette expérimentation, voilà. Donc ça, c'est une vraie question qui est posée aussi par rapport à aux exigences d'académisme que l'on a sur ce type de dispositif, c'est compliqué. Florian pourra aussi en témoigner, je pense, sur quelques aspects. Donc ça, c'est un côté d'accumulation de données pour eux, gagner aussi un petit peu en généricité. Et il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire qu'on veut aussi produire finalement des savoirs et donner des références sur des systèmes innovants dans différents contextes pédoclimatiques pour justement essayer d'engager et de présenter en tout cas des données chiffrées à la profession pour qu'ils puissent s'engager dans une transition et dans des systèmes, alors c'est un peu pompeux peut-être, mais peut-être plus vertueux, on va dire, en tout cas sur la gestion en tout cas des sols et de leurs intrants. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant donc d'avoir des données sur ce type de système pour justement essayer de faire bouger les lignes et de présenter des données chiffrées de réussite et d'échec ou de ce qu'il ne faut pas faire si on veut engager une transition pour ne pas se planter. Voilà, donc c'est un petit peu cet état d'esprit qu'on a eu tout au cours de ce projet et qui perdure encore aujourd'hui. Voilà.
Peut-être un truc intéressant à rajouter par rapport à ce que tu as dit sur la gestion du risque, sur les agriculteurs qui expérimentent mais qui ne veulent pas, voilà, qui veulent pas non plus prendre trop de risques. Vous leur avez proposé enfin au début, dans le contrat passé avec eux, de comment c'était, vous preniez en charge financièrement le risque sur l'expérimentation. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, on vous dédommage, si on insère un couvert, c'est un coût supplémentaire, on vous dédommage, etc. Et moi, j'ai participé à certains des ateliers avec eux. Et quand cette question revenait, les chercheurs disaient, au fait, il faut qu'on remplisse les contrats là pour vous dédommager et tout. Ils disaient, ouais, la prochaine fois. Et au final, je crois que ça ne s'est jamais fait.
Non, ça ne s'est jamais fait. D'habitude, on fonctionne plutôt voilà. sur des...
Question du risque financier, finalement, qui est toujours avancé pour dire qu'on ne va pas le faire.
Après, ils le font parce que c'est aussi une parcelle chez eux. C'est pas l'ensemble de l'exploitation qui est concernée, et donc du coup ils prennent un risque sur une faible, enfin sur un hectare, deux hectares, on va dire, mais voilà, c'est pas négligeable. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on a un rendement moyen exploitation, et puis si on se plante dans un essai, ben, on compense par rapport au prix de vente de la culture, effectivement, la perte de rendement. C'est ce qu'on fait classiquement dans différentes expé. Là, ils ont. Alors, on leur fournit, en fait, on va dire, si par exemple c'est des nouvelles semences, de couverts, de ci, de ça, où on a besoin de faire venir un entrepreneur pour une machine spéciale, pour semer, etc., on paye en fait ce genre de choses. Mais ils n'ont jamais accepté un dédommagement sur des pertes de rendement, etc. Donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment partie prenante des choses. Ça, pour l'instant, ça fonctionne. Voilà. Des fois, j'aimerais bien aussi qu'ils prennent plus de risques. c'est des fois aussi un peu compliqué d'aller un peu plus loin. Bon, après, ça fait d'autres débats.
Est-ce que aussi tu pourrais peut-être repréciser ce que c'est la différence entre une expé système et une expé analytique pour qu'on comprenne bien ça?
Historiquement parlant, oui, en sciences agronomiques, on a eu beaucoup d'essais analytiques, c'est-à-dire toute chose égale par ailleurs. Par exemple, on va comparer l'effet d'une dose de je ne sais pas quoi, de pesticides sur tel ou tel insecte. Voilà, donc on a exactement les mêmes conditions, même contexte pédoclimatique, les mêmes variétés utilisées. Et il y a un facteur qui varie. Et ce facteur-là, c'est celui que l'on teste. Voilà. Sauf que, donc ça, c'est, on va dire, une approche de laboratoire, mi-champ, mi-laboratoire. Voilà. Y a un essai historique qui est très connu, qui est celle, qui est l'essai des 42 parcelles de Versailles, qui est en place depuis 1928. Voilà, c'est il y a quasi 100 ans. Toute chose est légale par ailleurs, on a des petites placettes de sol, et puis on regarde l'effet si on apporte ou pas de la matière organique, tel type d'engrais, etc. Et puis on voit l'évolution à très long terme. Voilà. Sauf que dans une exploitation, il n'y a jamais un facteur qui change en même temps. Si vous changez une pratique, et ben. C'est en fait tout est lié, et donc du coup toutes les pratiques doivent être adaptées à cette modification. Donc en fait, en conditions réelles, c'est souvent ce que les praticiens, les agricultrices, les agriculteurs nous reprochent, ils disent, vous êtes gentils, mais vous faites toutes choses égales par ailleurs. Nous, on ne travaille jamais comme ça. Quand on change une pratique, ça a des conséquences sur l'ensemble de nos choix techniques, stratégiques sur l'exploitation, et donc du coup tout change en même temps. Donc ça n'a pas de sens pour nous de réfléchir une expérimentation analytique. Et donc c'est pour ça qu'il y a des expérimentations système où là on se fixe des objectifs et il y a plusieurs voies pour atteindre cet objectif. Et c'est l'atteinte à l'objectif c'est la mesure de l'atteinte à cet objectif qu'on s'est fixé collectivement qui raconte un peu le succès ou les échecs de ce que l'on a essayé de mettre en place. Et ça c'est une démarche scientifique qui s'est développée quand même il y a pas mal d'années. Mais qui reste dans le monde académique assez compliqué, je trouve encore aujourd'hui à valoriser. Ça, c'est une question aux chercheurs, que je suis aussi pour partie. Ouais, c'est difficile.
Merci pour cette présentation
d'ailleurs. Je ne sais pas si peut-être que tu veux parler de Cotrail ou est-ce qu'on pourrait se poser des questions.
Oui, je vais parler de
Cotrail, mais je voulais juste revenir encore. Sur cette
Hélène thèse. M'a beaucoup observé en tant que chercheuse, c'est pour ça dans cette.
Sur cette. Non, parce que je trouve que c'est intéressant de peut-être de donner un peu de concret autour de cette expé-là.
moi, ce que j'ai pu, effectivement, en observant comment les chercheurs agronomes travaillaient avec les agriculteurs autour de cet extrait-là, parce que tel que tu nous l'as raconté, c'était une histoire lisse aussi, où vous êtes mis autour de la table, vous avez discuté, tout ça, vous avez construit, mais bon, c'est pas toujours facile, hein, on en a discuté ce matin. Voilà, la participation, c'est aussi pas mal de difficultés à surmonter, et ça s'est bien passé, c'est pas la question, mais ces ateliers participatifs, ces premiers temps, en tout cas, où, comme tu l'as dit, vous avez défini ensemble quels objectifs on se donne, c'est quoi ce système innovant, ce système de culture innovant qu'on a envie de tester, c'est quoi vos objectifs, vous, agriculteurs, donc vous les avez beaucoup interrogés là-dessus. Vous leur avez beaucoup demandé, ouais, alors, d'une part, interrogé sur leurs objectifs.
Alors, ça, déjà, c'est compliqué.
Ça, déjà, c'était compliqué parce que leurs objectifs, ils en avaient pas forcément. Ou, c'était drôle. C'était si rien n'émergeait trop, les chercheurs faisaient des propositions. Ils disaient ah oui, ça, c'est super intéressant, oui, ça. Puis les chercheurs faisaient une autre proposition. Ah oui, ça aussi, ça. Oui, ça, c'est très intéressant. Donc, en fait, on voyait qu'ils étaient extrêmement enthousiastes pour partir sur les objets, pour partir, en fait, dans une aventure de recherche avec les chercheurs.
Sur les sols. On savait qu'ils voulaient bosser sur les sols.
Sur les
sûr.
Sols. Mais ça, bien plus que de répondre à leurs objectifs. Alors que c'est vrai que quand on voit les vidéos a posteriori, ils sont beaucoup là-dessus, quoi, en fait. En quoi ça a répondu à mes enjeux techniques et en quoi demain ça va encore devoir répondre, quel sera le bon couvert, etc. Ouais, vas-y,
Je ne sais pas si on part dans les
questions.
Ça peut être deux minutes. Donc ça peut être tout lisse, effectivement, dans les relations et aussi en termes de participation. Parce qu'on est sur un projet au long cours, et du coup, un projet participatif de co-conception, bah, ça demande un engagement de part et d'autre. Et au départ, il y a beaucoup d'enthousiasme, et puis petit à petit, bah, il y a de la perte en ligne. On travaille plus proche des agriculteurs qui reçoivent nos essais, qui ont accepté de tester ces systèmes innovants, mais on voit que le groupe, petit à petit, s'est délité autour. Et ça, c'est compliqué de maintenir aussi une dynamique collective. Et après, on doit à nous aussi d'inventer des moyens d'animation, de diffusion, de transmission de tout ce qu'on fait sur le terrain. Et alors ça, c'est une autre paire de manches. Et puis c'est un autre métier. Et au bout d'un moment, je suis chercheur. Et au bout d'un moment, c'est compliqué. Il faudrait... C'est autre chose parce qu'en fait, encore à faire à côté. Et ça, c'est une vraie question sur ces dispositifs qui... sont coûteux en temps, en argent, en énergie, de ne pas les laisser retomber en fait un petit peu et de justement de pouvoir engager une transition à plus large échelle que ce qu'on fait avec un petit groupe d'agriculteurs. Et ça, c'est compliqué. Excuse-moi, Florian, je t'ai
compris. Du coup, j'avais une question, parce que vous présentez, j'en ai déjà discuté un peu pour ce
matin.
Pardon, plus fort. J'avais une question sur. Je vois bien. Enfin, j'ai l'impression que la symétrie dont parlait Pierre Forme tout à l'heure sur les connaissances des deux types d'acteurs, on va dire, que vous mettez autour de la table, sur la conception, finalement, elle peut en partie se s'atténuer. Enfin, je veux dire, on a chacun nos savoirs et on peut imaginer les mettre autour de la table et essayer de réfléchir à un objectif commun, etc. Mais sur l'évaluation, est-ce que finalement, c'est pas là que la symétrie est la plus forte? Est-ce que finalement, vous arrivez encore à co-concevoir a priori avec eux l'évaluation justement de ces systèmes innovants? Alors, finalement, c'est le chercheur qui prend le pas et qui dit « vous inquiétez pas, j'ai les méthodes, on va évaluer ».
Alors au départ, c'est le mauvais pas qu'on a pris, clairement, parce qu'on a... Et puis, on a l'habitude de mesurer, d'accumuler la donnée, et puis quand on revient 6 mois après ou 1 an après auprès du groupe, qu'on leur présente des choses, ils disent « ouais, moi, du gramme par mètre carré d'Atlantis, ça ne me parle pas, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ça ne m'évoque rien. Qu'est-ce que ça veut dire que cet indicateur? Je ne comprends pas. Ça, c'est quoi ça, Donc là, aujourd'hui, on a engagé une autre réflexion. On travaille aussi avec des conseillers de la Chambre d'agriculture dans le territoire, justement, pour voir un petit peu d'autres façons de faire et d'animer, en fait, un petit peu l'acquisition de connaissances et de résultats. Et, Et donc là, on réfléchit à d'autres formes où la part d'évaluation des agriculteurs et des agricultrices qui travaillent avec nous est vraiment centrale. Et on essaye, alors ça c'est l'objectif de cette année qu'on doit faire, j'ai bien entamé, on essaye de construire en fait ce qu'on appelle un petit peu des tableaux de bord en fait, d'évaluation de la réussite d'une innovation qui est testée. Et ce tableau de bord est construit avec, par les agricultrices et les agriculteurs, avec nous bien sûr aussi, et c'est eux qui évaluent le chemin de la réussite ou de l'échec, en donnant aussi leurs indicateurs et les valeurs seuils qui, eux, leur semblent importants. Alors, ça vous paraît peut-être un peu obscur comme ça, parce que je vous explique. Mais voilà, on a
un exemple.
Bah, par exemple, effectivement, réussir, je ne sais pas, à diminuer de 50% au hasard l'utilisation des pesticides. Bah, qu'est-ce qu'il faut pour... Là, c'est l'objectif final. Et on a tout un arbre de décision avec des indicateurs de réussite de leur système mesurable par les agriculteurs qui permettent de dire, ben voilà, si je n'ai pas réussi cette année, c'est là et là que je me suis planté, et si je me suis planté là et là, l'année prochaine, il faut qu'on réfléchisse différemment et qu'on modifie les règles de décision qu'on avait adoptées collectivement pour essayer d'atteindre cet objectif l'année prochaine. Donc c'est une boucle aussi d'amélioration continue que l'on discute tous les ans avec les agriculteurs avec qui on travaille, justement sur la base d'une évaluation un peu croisée. Donc nous, on garde aussi nos indicateurs pour publication, si on y arrive. Et aussi, on a aussi toute une démarche, effectivement, on va dire, d'évaluation croisée, d'auto-évaluation et d'appropriation par les praticiens et les praticiennes, effectivement, des chemins de réussite ou d'échec des techniques, des systèmes que l'on teste. Mais c'est... Je ne sais pas si j'étais très clair, mais c'est aussi assez compliqué en fait à mettre en œuvre ce genre de choses. Donc on est encore en train de le tester. Et voilà, je t'en dirai plus d'ici quelques temps, j'espère.
Je trouve que ce qui est intéressant aussi dans votre démarche par rapport à cette question d'asymétrie ou de cette question de qui fait quoi à quel moment dans l'expérimentation, parce qu'en fait c'est une histoire au long cours, l'expérimentation. Oui. Ouais. C'est on est parti de ces situations d'atelier, de co-conception, où les chercheurs interrogent les agriculteurs sur leurs objectifs. Donc on co-construit ce système, on se met d'accord sur les objectifs, on établit ensemble les règles de décision, du coup, pour répondre à ces objectifs. En ça, on fait rentrer l'agriculteur dans une démarche d'agronome, complètement. Et après, on lui dit, je caricature, hein, et après on dit à l'agriculteur, maintenant c'est toi qui gères. Et là, c'est toi qui es bon, c'est pas moi, agronome, donc tu gères. Et donc, c'est les agriculteurs qui conduisent les cultures telles qu'ils pensent qu'il faut les conduire, en fonction des objectifs qui ont été accordés, sur lesquels on a été accordé, mais comme eux pensent qu'il est bien de le faire sur leur exploitation, dans la situation réelle qui est la leur, avec leur gestion du risque, leur gestion du temps, leurs contraintes météo, etc. Et après coup, le chercheur revient et il évalue. Alors, après coup et puis entre temps, puisqu'il y a plein de mesures qui sont faites par le chercheur, et puis il évalue pour une part tout seul, et pour une part il demande aussi à l'agriculteur d'évaluer avec lui ce qui s'est passé, et aussi il demande à l'agriculteur ce qu'il a fait, comment il a conduit la culture, donc il retrace tout ce qui a été fait. Et là où je trouve que c'est intéressant aussi, c'est que c'est pas un problème pour l'agronome si l'agriculteur n'a pas fait tout à fait ce qui était prévu de faire. Donc c'est là qu'on est très très loin de l'expérimentation analytique.
Tout à fait. Oui.
Parce que si l'agriculteur n'a pas fait, on suppose qu'il a des bonnes raisons de faire comme il a
Exactement.
Fait, hein, puisque là on fait confiance à son savoir d'agriculteur, et donc on cherche, enfin on veut savoir pourquoi il a fait comme il a fait. et non pas comme on avait dit qu'il ferait.
Et ça, au début, c'était une vraie question, parce que dans les expérimentations systèmes normées, on fixe des règles de décision que l'on respecte. Et finalement, en discutant avec d'autres praticiens qui font des essais systèmes, à l'INRAE, etc., ce qui s'appelle un petit peu le cadrage débordement des innovations effectivement agronomiques dans les systèmes, et ben, c'est pas grave finalement. L'important, c'est de bien comprendre pourquoi ça n'a pas été respecté, et qu'est-ce qui est à l'origine de ça, et est-ce que c'est justifié ou pas, et de comprendre le chemin et le cheminement qui mène à ces prises de décision-là. Et c'est ça qui est aussi très important dans l'implémentation système.
Question par, vous évoquez souvent l'aspect collectif de cette aventure. Dans quelle mesure cet aspect collectif a été facilitant ou pas? Autrement formulé, est-ce que si vous aviez contacté les agriculteurs un à un, que vous aviez fait la même démarche, que ça aurait marché de la même façon, ou est-ce que voilà, vraiment le côté collectif a été important et facilitant?
Sur les ateliers, sur la création, enfin sur l'émergence des innovations, ça a été capital. Parce que effectivement, ils ont plein de savoirs situés, tous différents, des expériences différentes, ils ont voilà, des vécus différents, et donc il y a plein d'idées différentes. Et c'est dans la confrontation un petit peu des idées, il y a plein de choses qui peuvent émerger, et puis petit à petit ça se construit, il y a quelque chose qui émerge, que tout seul, entre un agronome et une agricultrice, un agriculteur, je pense pas qu'on puisse, enfin voilà, qu'il y aurait eu, il y a quelques innovations effectivement, qui ont, enfin quelques innovations, quelques pratiques, quelques techniques mises en œuvre, qui ont émergé effectivement du groupe. Et en individuel, je pense que c'est compliqué d'avoir ça, quoi, l'intelligence collective en fait. Voilà. Après, il y a plein de méthodes d'animer, de faire de la co-conception. Il y a tout un corpus après scientifique derrière sur les méthodes de conception, d'accompagnement, etc. des agriculteurs. On a choisi plutôt une co-conception pas à pas, on va dire, c'est-à-dire qu'on améliore l'existant petit à petit. Mais après, il y a des méthodes de rupture, en fait, hein, où on peut aller beaucoup plus loin dans les innovations, mais qui sont aussi beaucoup plus casse-gueule, et c'était un petit équilibre qu'on devait trouver en fait, un petit peu entre le groupe et...
Pour ce que j'ai pu observer, alors les ateliers, ils étaient animés par les agronomes, par les chercheurs. Alors c'est vrai qu'il y a un acteur dont on n'a pas parlé là, c'est qu'il y avait quand même une conseillère, une agronome de la chambre d'agriculture qui était présente, qui était relativement en retrait lors de ces ateliers. Qui, c'est pas elle qui les animait, donc c'était Jean-François et Joséphine, et qui voilà, et qui laissait parler les agriculteurs, puisque l'objectif c'était de laisser parler les agriculteurs. Pour ce qui est des frottements dont tu parles, enfin j'ai pas, je parlerai pas de frottements, j'ai pas de souvenir de frottements, sinon plutôt de moments de un peu de passivité des agriculteurs, enfin, entre guillemets quoi, un enthousiasme à participer, mais aussi parce que les agronomes étaient extrêmement questionnants, dites-nous et vos objectifs et les règles de décision que vous allez prendre et la gestion, etc. Au bout d'un moment, genre allez, dites-nous comment on fait, et puis
et après les... Après, j'ai vécu d'autres ateliers de co-conception aussi, chez les arboriculteurs notamment, avec la présence d'un conseiller qui n'avait pas pris du tout cette posture et qui intervenait tout le temps. Je peux vous dire qu'on a produit zéro innovation à la sortie. Zéro. Voilà. Ah, mais ça, mais non, mais là, moi j'ai déjà vu, ça c'est pas possible. Ah, mais ça, attention, parce que. Alors là, il y a une question de posture aussi. Alors on n'a peut-être pas nous adopté la bonne en tant qu'agronome aussi, mais il y a des postures aussi d'accompagnant, on va dire, sur le territoire des agriculteurs et des agriculteurs, qui est fondamentale en fait dans l'émergence effectivement d'innovation, d'idées voilà, qui sortent un petit peu de.
Et du coup, est-ce qu'il y a des agriculteurs qui étaient dans le début du projet qui ont abandonné en cours de route? Et si oui, pourquoi?
Alors, pas les agriculteurs chez qui ont accepté de conduire les essais. Parce que c'est, enfin, j'ai pas précisé, mais c'est des essais au long cours, pluriannuels, qui ont été faits chez l'un des participants du projet au début. Donc ceux qui reçoivent les essais et qui les conduisent, non, pas d'abandon. En revanche, il y a eu de la perte en ligne sur l'ensemble des agriculteurs qui venaient au départ aux ateliers de co-conception ou qui venaient à la restitution des résultats et l'acquisition un petit peu de références l'année dernière. Petit à petit, on a vu un petit peu le groupe s'éroder et c'est pour ça que là, on va changer un petit peu notre fusil d'épaule cette année pour la façon d'animer, de réamener en fait un petit peu plus de personnes parce que voilà, ces essais ont pour objectif effectivement d'engager au-delà des exploitants avec qui on travaille. C'est aussi une vocation que l'on a.
Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de coopération de fait par rapport à les objets de vie, enfin, le travail des uns et les recherches de l'autre? Je suis assez surprise que ce mariage-là, parce que pose autant de questions, etc.
Peut-être
vous. Les éléments de réponse qu'on peut apporter, c'est que le début des expérimentations système, c'est-à-dire le chercheur qui va avec les exploitants directement dans les parcelles faire des essais, ça a été extraordinairement laborieux. Il a fallu choisir les bons lieux où des chercheurs avaient des connexions personnelles avec des gens des chambres d'agriculture, avec des professionnels, etc., pour d'abord que la possibilité du dialogue émerge. En général, c'était dans des zones en difficulté, à la marge du modèle dominant, dans laquelle les exploitants étaient demandeurs de solutions, qu'ils avaient le sentiment que la recherche ne s'occupait pas d'eux. Donc déjà, on est un petit peu dans la périphérie du modèle dominant. Là, je suis dans les années 70, dans les Vosges, par exemple. Hein. Les premiers travaux de l'ENSA à Dijon, avec l'équipe des agronomes de Versailles, c'est aller chercher dans les exploitations les raisons de la non-adoption des paquets technologiques standards de la révolution fourragère. Et on cherche à comprendre comment on peut aider ces acteurs qui refusent ce système à en inventer un autre. Moi, j'ai enquêté auprès des chercheurs qui ont fait ces innovations-là. Ils n'ont pas réussi à publier. Ça leur a pris 7-8 ans d'arriver à sortir des papiers là-dessus. Et ça a été laborieux. Et la direction de l'INRA leur disait, quand est-ce que vous mettez à faire un travail sérieux? Donc, je veux dire que c'est pas facile du tout d'utiliser de l'argent du contribuable pour de la recherche publique sur des situations où on va développer énormément de protocoles méthodologiques sur 2, 3, 4 exploitations. C'est ça la difficulté aussi. Hein. C'est qu'à un moment, il y a un phénomène de à la fois de rentabilité scientifique et de l'argent public qui est investi. Donc, la difficulté, c'est où est-ce qu'on met de la recherche, où est-ce qu'elle va être bien accueillie, et où est-ce qu'on peut vraiment créer cette synergie-là. Moi, j'aurais envie de vous renvoyer un exemple qui est un peu paradoxal par rapport à ce que vous dites sur la prise de risque. J'ai fait des enquêtes dans deux unités expérimentales de l'INRA, à Saint-Laurent-de-la-Pré dans la Marais de l'Ouest et à Mirecourt dans les Vosges. Et là, ce n'est pas les exploitants qui étaient frileux. Les techniciens et les ingénieurs des unités expérimentales, quand on leur a dit de passer au bio ou de passer à l'agroécologie, ils ont dit mais on va passer pour des charlots face à nos voisins parce qu'ils vont trouver que nos champs sont sales, qu'on ne maîtrise pas nos cultures, qu'on prend des risques, et du coup la réputation de la science avec un S majuscule va en prendre un coup. Et il a fallu faire de la médiation dans les unités expérimentales pendant des années pour que les techniciens et les ingénieurs acceptent de prendre le risque d'être regardé par les voisins agriculteurs comme faisant des choses qui n'étaient pas bien bornées et bien cadrées. Donc c'est vrai, les frileux, les courageux ne sont pas toujours du même côté.
Non, tout à fait. Oui, c'est...
Une question sur un point qui n'est pas différent entre les praticiens et les chercheurs, c'est la temporalité.
plus fort, Soraya.
La temporalité, est-ce que c'était une question qui a émergé dans vos travaux ou pas ?
Oui, elle a émergé très tôt, et en tout cas très tôt, nous on a posé le cadre aussi. On a dit voilà, on travaille sur le sol, il y a des indicateurs qui réagissent vite, mais en fait, en tout cas, on est sur des changements de fond qui vont demander plusieurs années. C'est pour ça qu'on a un engagement pluriannuel. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions qui peuvent être très lentes sur cet écosystème. Et donc, du coup, on avait posé aussi d'entrée en disant, voilà, attention, ce n'est pas demain, on ne vous apporte pas une réponse formelle sur ça ou ça. On a besoin de temps pour tester. Un système de culture, en fait, c'est une rotation complète. Donc là, par exemple, sur certains, chez le semencier, on a une rotation de 8 ans. Donc si on veut vraiment évaluer un système, eh ben, il faut au moins 8 ans. Et donc il y a cette question de temporalité qui explique aussi en partie une perte en ligne, en fait, des participants au projet. Et c'est assez long, mais je crois que les agriculteurs qui sont engagés avec nous avaient cette conscience-là et étaient aussi très ouverts, en fait. Donc eux, en tout cas, je pense, ont conscience de cette temporalité. Mais c'est une question assez difficile, effectivement, à gérer le temps de la science, de l'acquisition de données, de digérer ces données, de voir, de gagner un petit peu en généricité avant de communiquer, etc. Ça, c'est un temps beaucoup plus long que souvent des praticiens, des praticiennes sont dans une gestion du temps un peu plus court, avec des contraintes économiques qui viennent télescoper des objectifs scientifiques à plus long terme. Ça, c'est un peu compliqué à gérer. Oui.
Oui, du coup, on parlait de la place de la recherche dans le monde agricole. Et du coup, là, on discutait de l'interface entre les agriculteurs et les agronomes. Et je me posais la question de le reste des acteurs de la filière, et notamment que l'ARNESF, qu'il y a un cahier des charges imposé dans le cadre de la production de semences ou des porcs. Est-ce que tu as inclus les acteurs de la filière pour essayer de jouer des verrous avec tout cela ?
Alors, non, pas nous, à notre échelle, non, pas du tout, mais ça aujourd'hui, il y a tout un courant qui se développe, qu'on appelle l'innovation couplée, où aujourd'hui, en fait, on fait intervenir des acteurs de la filière, des metteurs en marché, par exemple, pour que, en fait, il y ait une prise de conscience, en fait, des contraintes que leur mise en marché peut imposer à certains producteurs, par exemple, et du coup, d'intégrer dans la gestion des exploitations, en fait, des innovations qui sont intégrées aussi par, par exemple, les metteurs en marché ou d'autres acteurs de la filière. Donc ça, c'est tout un courant aujourd'hui qui se développe, que nous, on n'a pas du tout intégré dans cet aspect-là, pour l'instant. Alors si au départ, il y avait une coopérative avec qui on travaillait sur cet objet, enfin sur ces expérimentations, qui collecte la majeure partie des agriculteurs de ce territoire, qui les conseille aussi. Mais ça n'a jamais bien pris. Après, peut-être que. Bon, ça n'a pas pris.
Pourquoi ça n'a pas pris ? Parce que par ailleurs, les acteurs en question viennent chercher les agronomes pour travailler sur des enjeux qui ressemblent quand même énormément à ce qui est traité ici.
Alors. Je ne saurais pas te répondre, Florian. Je pense qu'on n'a pas aussi adopté tout à fait la bonne posture au départ, en fait, avec cet acteur. En fait, je pense qu'on l'a peut-être, enfin, ouais, je ne sais pas, mal intégré,
pas assez intégré.
Ouais, peut-être pas assez intégré. En fait, au départ, on a fait peut-être un projet trop centré sur les agricultrices et les agriculteurs, et peut-être pas assez sur l'environnement au début. Et je pense que j'ai pas forcément adapté les bonnes postures aussi pour bien intégrer cet acteur économique. Voilà, donc je ne jetterai pas totalement la pierre.
Moi, je peux en dire juste un mot, parce que l'objet, enfin oui, voilà, en un mot, c'était au départ l'idée de vous présenter trois façons de faire recherche participative, finalement, avec Perrine qui vous a parlé très brièvement du projet Terrae construit avec des acteurs des territoires, en particulier un parc, elle a dit brièvement, un parc, une collectivité territoriale et puis des groupes d'agriculteurs, là on en a parlé plus précisément. Et dans le projet COTRAE, qui voulait dire collectif agricole en transition agroécologique, la participation, en fait, c'était celle de justement de ces acteurs intermédiaires que sont les conseillers agricoles ou autres accompagnateurs de groupes d'agriculteurs, pour le coup engagés dans une transition agroécologique.
Est-ce qui peut être utile comme bientôt ?
Non, remets la première, c'est pas grave, c'est sur la première de toute façon. Juste peut-être pour dire les choses. C'était un projet financé par un programme qui s'appelle PSDR pour et sur le développement le développement régional, donc des financements régionaux et européens. Le pour et sur, ça veut dire que c'est des programmes qui justement obligent à une participation, une implication forte d'acteurs professionnels. Ça oblige ce qu'on appelle les livrables de fin de projet, c'est-à-dire ce qu'on doit produire, ce qu'on s'engage, ce que les chercheurs, enfin, ce que les gens qui vont être financés dans le projet de recherche s'engagent à produire. Ça va être des livrables qui doivent être utiles aux acteurs de ce développement régional, et donc pas des articles scientifiques précisément. Et puis ça veut dire aussi que ce type de projet, il doit être coporté par un acteur scientifique et un acteur professionnel. Et là, en l'occurrence, l'acteur professionnel, c'était la FRQMA, donc la Fédération régionale des CUMA de la région Aura. Et en un mot encore, donc si tu mets la diapo 2, on a travaillé avec un ensemble de collectifs d'agriculteurs qui faisaient quelque chose en relation avec aller vers plus d'agroécologie, donc sur des thématiques diverses qui peuvent être liées au sol, aux cultures, à la santé animale, etc. Des collectifs qui étaient aussi divers que des CUMA, je vous en ai parlé, mais des associations, une association comme Paysans et Semences, ou le groupe des agriculteurs du collectif Sol, là, dont François vous a parlé, etc. Donc des collectifs très divers et qui étaient accompagnés par des accompagnateurs aussi divers, embauchés par des structures très diverses, soit chambres d'agriculture, des associations, des privés. Et la façon dont on a travaillé dans ce projet-là, et c'est la dernière chose que je vous dirai, c'est qu'on a mis ensemble tous ces accompagnateurs pour réfléchir avec les chercheurs à comment accompagner cette transition agroécologique, en faisant le pari, parce que c'était un projet qui était entre sciences sociales et agronomie, mais quand même à dominante sciences sociales, et on faisait les chercheurs qui étaient impliqués là-dedans croyaient, on faisait le pari que l'enjeu pour accompagner ces transitions agroécologiques, c'était plus une question de posture d'accompagnement qu'une question de compétences techniques. Et donc on a travaillé avec ces accompagnateurs pendant 4 ans sous forme d'ateliers, d'échanges de pratiques, de réflexions, qu'est-ce qu'on peut produire comme outil pour aider d'autres, etc. Sur cette question-là de changement de posture d'accompagnement. Voilà. Donc c'est une autre façon de faire.
Si nous reste 10 minutes, j'aimerais bien renvoyer une question à la salle qui n'a pas été. Qui n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler. Je vais vous dire en 2 minutes une petite expérience que j'ai eue. Je suis allé à l'automne dernier à un colloque qui s'appelait Sciences Techniques Agriculture, qui a eu la bonne et la mauvaise idée de se délocaliser dans un lycée agricole en Normandie. Et donc, les membres du colloque sont allés parler devant des lycéens et des enseignants de transition agroécologique. Et les lycéens venait juste de vivre le changement des programmes. Tout devait tourner désormais autour de l'agroécologie, et ils étaient enthousiastes pour leur programme, pour l'idée que, alors ils étaient 2/3 à être a priori des repreneurs de l'exploitation des parents, et 1/3 hors cadre. Et ils disaient aux chercheurs, l'agroécologie ça nous passionne, comment on peut faire, comment on peut changer le système laitier normand, comment on peut aussi, etc. Et la réponse qu'ils ont eue des chercheurs, c'était, ah mais non, c'est vous les experts, la transition, c'est vous qui allez l'inventer, on est passionnés par ce que vous allez faire, on va vous regarder faire. Et ils étaient dépités de se dire, mais voilà, on est allé tellement loin dans l'inversion du rapport agronome-agriculteur, que là, c'est l'agronome, enfin, comment vous voyez votre pratique quand vous serez en situation? Est-ce qu'on pousse la démocratie jusqu'à ne plus rien dire? Ou est-ce, comment on situe le curseur sur la manière de parler avec l'acteur? C'est une bonne question, non?
Peut-être pour aller plus loin, il y a la question des praticiens-chercheurs, qu'on entend de plus en plus.
Oui.
Où on a aussi ce renversement de qui est le sachant et qui est celui qui est à la traîne sur la connaissance. Et qui interroge, je trouve, pas mal l'agronome aussi et la relation agronome-agriculteur.
On est beaucoup confronté à ça aujourd'hui. Mmh.
Mais est-ce que c'est le moment de faire de l'introspection raffinée ou des pratiquages dans l'action aussi?
Toujours être raffiné.
Du moment qu'elle fait réfléchir, c'est l'essentiel.
Oui, ce matin, on en a pas mal.
Il y avait là,
quand même, si vous voulez. On va prendre une dernière question, puis après,
il y a une question par là.
Il semble quand même que des pratiquants en aquaécologie sont de plus en plus nombreux et on pourrait s'intéresser à leur réussite aussi et à diffuser plus largement. Ils font leur preuve de leur côté.
Oui, il y a plein d'exemples de réussite, et c'est ce qu'on était en train d'évoquer sur les praticiens chercheurs, ou en tout cas qui sont en nombre comme tel, effectivement. Mais oui, il y a plein d'exemples, effectivement, de fermes agroécologiques, et qui fonctionnent. Très bien, c'est pas le domaine, c'est pas la majorité. Hein. En fait, on a peu de recul, finalement, En fait, il manque de données un petit peu pour, à mon avis, convaincre plus. Voilà. Un objectif. Pardon.
Une rationalité.
Voilà.
Quand on sait qu'on a encore vendu 20% de glyphosate supplémentaire cette année, vers quoi on va, quoi, on s'inquiète, c'est vrai.
Je suis bien d'accord avec vous, mais.
Le projet